When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Miroir, miroir, épisode 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Marie Kirchen, journaliste spécialisée dans les questions féministes et LGBT, et fondatrice de la première revue lesbienne française, Well, Well, Well. On va parler ensemble de la représentation des lesbiennes dans la société, qui est très souvent biaisée, caricaturale et linéaire. Avec Marie, on va voir qu'il y a en réalité autant de lesbiennes que de manières de le vivre, mais surtout de les représenter. Pour cet épisode, je vais être obligée de tutoyer Marie, puisqu'on a bossé ensemble pendant 3 ans à BuzzFeed, et c'est vraiment impossible pour nous de faire semblant de nous vouvoyer. Bon, salut Marie.
Salut.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme je le disais, tu es la fondatrice de Well, 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 première revue lesbienne en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet ?
Alors, je ne sais pas si c'est la première revue lesbienne. Enfin, il y a déjà eu des magazines avant. Mais en tout cas, là, c'est le seul média en print, en papier, sur les femmes homo en France. Et alors, comment c'est né ? C'est né en 2013. Donc, c'était au moment du débat sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et en fait, il y avait deux magazines lesbiens qui existaient avant et qui venaient de fermer, qui s'appelaient La Dixième Muse et Lesbien Magazine. Et on se retrouvait, on parlait un peu partout des homos, des LGBT, du mariage, etc. Et finalement, il n'y avait plus aucun média qui parlait vraiment des femmes lesbiennes. Et au-delà de ça, c'est vraiment, il y a un manque de visibilité sur les femmes lesbiennes, bi et plus globalement queer, qui est flagrant en France et depuis très très longtemps en France et ailleurs d'ailleurs. Il y a vraiment ce truc, déjà les médias généralistes parlent très peu des LGBT. Donc LGBT, je précise, c'est lesbienne, gay, bi, trans. Donc très souvent dans les médias mainstream, à part quand il y a une loi sur le mariage, on en parle très très peu.
Et on peut rajouter même QI,
ouais. Ouais, c'est vrai que la version courte, LGBT, ouais. Exactement, on ne te cache rien. Donc oui, les médias grand public parlent très peu de ces thématiques-là. Et quand il y a des médias dits LGBT, où c'est souvent plus en fait des médias gays, c'est-à-dire que c'est des médias communautaires qui vont plus vraiment s'adresser à des hommes gays et être écrits par des hommes gays. Et donc nous, c'était vraiment, l'équipe avec qui on a lancé ça, c'était vraiment l'idée de dire, nous on veut aussi qu'il y ait quelque chose pour les femmes. Il y a eu Têtu, évidemment, que tout le monde connaît pendant des années et des années. Et finalement, la part qui était réservée aux lesbiennes et plus globalement aux femmes dans ce média-là était assez petite. Donc c'était vraiment pour répondre à une question, à cette invisibilité-là. Et j'ai envie de dire que c'est une invisibilité-là qui est y compris... Enfin, disons que les hétéros connaissent très mal les questions lesbiennes, l'histoire lesbienne, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est y compris nous-mêmes, en fait, en tant que lesbiennes. En fait, il y a tellement peu de choses sur l'histoire et la culture lesbienne que même nous, on connaît très mal. Enfin, moi, je sais que toute la période de mon coming out, etc., j'ai lu énormément de choses. Et c'était beaucoup plus sur les hommes, en fait, que sur les femmes. Et il y a vraiment un moment où je me suis rendu compte que je maîtrisais très bien la culture gay, qui me concernait pas directement.
Mais masculine.
Voilà, ouais. Et masculine. Et que la culture lesbienne, finalement, en fait, j'étais pas capable trop de citer, des femmes en France qui avaient milité ou qui avaient écrit des livres, etc. Enfin, finalement, fallait beaucoup plus rechercher. Moi, je sais que j'ai acheté pas mal de bouquins en anglais pour vraiment aller chercher cette culture-là. Donc, nous, c'était aussi à notre manière de amener notre petite pierre à l'édifice pour qu'il y ait un meilleur savoir, une transmission en fait, de cette culture-là.
C'est vrai que quand on parle d'homosexualité, comme tu le disais, on entend plus souvent parler des mecs gays et les lesbiennes sont carrément mises de côté, voire invisibles. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu plusieurs messages de lesbiennes lors de l'épisode sur la représentation des hommes gays dans les fictions, me reprochant d'avoir encore mis un homme gay en avant, ce que j'entends. Mais j'avais déjà prévu cet épisode avec Marie et je trouvais qu'il était nécessaire qu'une lesbienne parle de sa propre expérience. Et évidemment, ce cri du cœur montre à quel point il y a une hiérarchie dans le LGBTQI, le G arrivant souvent en premier. Mais du coup, comment on grandit dans un monde où on a l'impression de ne pas exister du tout ?
Bah, honnêtement, c'est galère. C'est galère, je pense que c'est aussi le cas pour les gays, mais c'est vrai que c'est beaucoup le cas pour les lesbiennes. Moi, je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais quand j'étais gamine, je savais que les gays existaient, mais je savais pas que les lesbiennes existaient. Honnêtement, ça me paraît... Moi, je me dis, mais c'est dingue, c'est fou. Et j'espère que c'est plus le cas pour les jeunes qui grandissent aujourd'hui. Mais vraiment, genre, moi, je sais, quand je me rappelle très bien, je savais qu'il y avait des hommes gays, des hommes qui sortaient ou qui couchaient avec des hommes, et j'étais pas du tout, j'avais pas encore fait la petite calcul mental de me dire, mais en fait, si des hommes le font, il y a peut-être aussi des femmes qui tombent amoureuses de femmes. Donc ouais, ça c'est assez bizarre, et je pense que ce qui est compliqué, enfin, quand on est homo ou bi, il y a plein de choses qu'on partage avec d'autres minorités, mais un truc qui est spécifique, c'est que en fait, on nous apprend d'abord que c'est mal, en fait. C'est-à-dire qu'on grandit dans un monde où on dit tapette, où on dit enculé quand on regarde le foot, où on dit sale gouine à une meuf qui vous revient pas. Et en fait, vous réalisez, après, selon votre âge, plus ou moins jeune, mais ensuite, vous réalisez qu'en fait, l'insulte, c'est vous. Et ça, c'est super dur, en fait. C'est vraiment... Enfin, c'est violent. Et d'autant plus que vous pouvez pas aller voir vos parents en général... vous avez grandi dans une famille hétéro, et donc vous voulez pas forcément aller voir vos parents pour dire, bon bah voilà, en fait, on vient de me traiter de sale gouine. Qu'est-ce que je fais ? Parce que vos parents, déjà, vous avez peut-être pas forcément envie, comme ça, qu'ils soient au courant tout de suite si vous êtes concernés. Et en plus, ils ont pas forcément la connaissance, savoir comment réagir, etc. Donc c'est ça qui est assez compliqué, quoi.
Et il y a cette double discrimination d'être une femme et homosexuelle, et parfois d'être aussi noire et musulmane en plus. Et pourtant, j'ai l'impression que la lesbienne rassure plus que l'homme gay, à qui on associe tout de suite une sexualité exacerbée. Mais avec ça, il y a aussi toute une fantasmagorie d'hommes hétéros autour des lesbiennes. C'est quelque chose qui a contribué à l'invisibilisation, justement, tu penses ?
Bah, je pense que c'est vrai que sur les lesbiennes, il y a vraiment un truc complètement paradoxal. Enfin, il y a vraiment deux images de figures complètement contradictoires. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il y a une image extrêmement... un peu désexualisée des lesbiennes. Il y a vraiment l'idée que en fait, la sexualité, c'est quoi ? C'est un pénis qui rentre dans un vagin, pour plein de monde, encore aujourd'hui. Donc, quand c'est le cas des gays, ben, effectivement, il y a la question de la sodomie, il y a plein d'hétéros qui freak out et qui disent « Ah, la sodomie !» Bref, qui ont vraiment un problème avec ça. Et du coup, pour les lesbiennes, ben, en fait, il y a l'idée qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de pénis, enfin, on a tellement une sexualité qui est centrée sur le pénis, qu'à partir du moment où il n'y a pas de pénis, du coup, il y a l'idée qu'en fait, ce n'est pas du vrai sexe. Moi, j'ai plein d'histoires autour de moi de femmes lesbiennes qui rapportent qu'elles ont été voir, par exemple, une gynéco. Et donc, elles disent à la gynéco qu'elles sont en couple avec une femme. Et du coup, elles disent, bon, mais par contre, il faut quand même que je vous demande, est-ce que vous avez eu un rapport, sous-entendu un vrai rapport, sous-entendu un rapport avec un pénis. Alors qu'évidemment, vous avez... Enfin, a priori, si vous êtes avec une femme, évidemment, vous avez des rapports. Mais il y a quand même cette idée que, du coup, pas de pénis, donc ça veut dire forcément pas de pénétration, ce qui est évidemment pas forcément le cas. On peut être pénétré par plein d'autres choses que par un pénis. Donc il y a vraiment cette image-là. Quand j'étais à BuzzFeed, j'avais fait un papier sur les scénarios des films LGBT. Il y a plein de films qui mettent en scène des femmes qui sont amoureuses, qui sortent ensemble. Et souvent, en fait, le résumé, c'est une histoire d'amitié. Ça va être présenté comme deux amis, une très belle amitié qui éclot le temps d'un été. Non, 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 non. Non.
Mais il y a aussi ce pendant de l'image d'un couple de lesbiennes qui serait un peu le fantasme de l'homme hétéro qui serait... voilà, on fait un plan à trois et vous deux, vous vous embrassez. Enfin, on a vraiment grandi un peu en voyant cette image de lesbiennes hyper sexy qui répondent à un fantasme hétéro.
Bah, c'est vraiment tout le truc du porno hétéro qui met en scène des lesbiennes avec des grosses guillemets. Hein, parce que c'est, voilà, Pas mal de choses à redire sur à quel point c'est pas vraiment lesbien ce qui se passe dans les pornos hétéros. Mais ouais, par exemple, moi, quand j'étais au moment de mon coming out, je me suis posé plein de questions, donc j'ai fait l'erreur totale de taper lesbienne dans Google. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Parce que du coup, vous n'avez pas des renseignements sur l'homosexualité, etc. Le coming out, vous n'avez vraiment que des images de cul. Et en plus, souvent, avec plein de bites partout. Donc ce n'est pas très, très lesbien. Il y a vraiment un problème dans le concept. Et ouais, non, il y a souvent, effectivement, on retrouve énormément de porno hétéro où il y a deux femmes qui sont souvent pas du tout lesbiennes dans leur propre vie personnelle. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les quelques pornos que j'ai vus, je trouve que ça se voit vachement qu'elles ne savent pas comment faire, qu'elles savent pas trop ce qu'elles sont en train de faire, honnêtement. Et puis, il y a toujours, effectivement, le mec qui vient après pour faire le vrai taf, quoi. Donc ça, évidemment, c'est super chiant. C'est super chiant parce que c'est vraiment les hommes hétéros qui s'approprient ce que c'est que, enfin, juste le lesbianisme.
Voilà. Pas pour eux.
Ouais, exactement. Et en plus, ça alimente plein de clichés sur les lesbiennes, sur le fait que du coup, il faut nécessairement un homme qui vienne finir le boulot. Et puis, effectivement, ça renvoie du coup comme ça à une image qui est extrêmement sexuelle. Moi, je sais que ça m'a déjà arrivé plein de fois. À partir du moment où je dis aux gens, où les gens comprennent que je suis lesbienne, du coup, ils se permettent mais de me parler de cul, en fait, comme si on se connaissait, alors qu'on ne se connaît pas et que je ne vais clairement pas leur raconter ma vie personnelle, en fait.
Oui.
Ouais, c'est ça. Alors qu'ils ne se permettraient jamais avec des hétéros, en fait.
Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien que tu nous fasses un point, parce que je sais qu'il y a plein de termes utilisés dans la communauté gay, mais notamment chez les lesbiennes. Butch, femme, andro, soft butch, enfin plein de trucs que je ne maîtrise pas et je pense que je suis pas la seule. Donc j'aimerais bien que tu nous dises, en fait, qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment on catégorise tout ça.
C'est vrai qu'il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, par exemple butch, t'as dit, donc qui vient d'anglais butcher, donc qui veut dire boucher, et en fait qui décrit quelqu'un, homme ou femme, qui est assez costaud. Et donc les butch, c'est les lesbiennes plus masculines, qui ont souvent les cheveux courts, qui vont plus avoir des habits qui tendent plus vers le masculin, qui vont pas porter de talons, qui vont pas avoir du rouge à lèvres, par exemple. On peut dire, par exemple, soft butch, donc c'est une butch, mais un peu plus soft, en fait, donc un peu moins masculin. On parle aussi de filles andro, donc pour androgyne. Et je dirais que la manière dont on l'utilise, c'est les filles andro, c'est plus Shane dans The L Word, pour les gens qui ont regardé. Donc c'est peut-être une fille qui est un peu plus... un peu moins masculine, qui est peut-être... un peu moins masculine que la butch de base. Il y a aussi des filles qui utilisent le terme tomboy, donc qui veut dire garçon manqué, en fait, en anglais. C'est sûr que garçon manqué, bon, c'est aussi un terme qu'on peut se réapproprier, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de manquer qui est complètement stupide. Et de l'autre côté du spectre, plus vers le féminin, il y a ce qu'on appelle les femmes, donc F-E-M. Alors, sachant que ça vient du mot français « femme », en fait.
D'accord.
Et donc, c'est les Américains qui l'ont utilisé, les anglophones. Voilà. Donc, ça désigne une lesbienne très féminine. Et nous, en français, on va plutôt écrire « FEM » pour justement différencier du mot « femme ». Et par exemple, on peut être une « high femme ». Donc là, la « high femme », c'est elle va vraiment avoir des talons, enfin être vraiment très, très féminine. Il y a aussi le terme de... Alors moi, je ne l'utilise pas trop, mais de « lipstick lesbienne ». Il est un peu hétéro, je trouve. Enfin, les hétéros l'utilisent beaucoup. Et c'est du coup sur le rouge à lèvres, alors que tout le monde, on peut être très féminine et pas forcément porter du rouge à lèvres. Il y a aussi un petit terme qui me fait rire qui s'appelle fouch. Donc c'est un mélange entre butch et femme. Donc c'est, on va dire, une butch un peu plus féminine que d'autres butch. Voilà. Donc, après, c'est un peu un jeu. Enfin, il y a plein d'étiquettes. Après, je sais qu'il y a vraiment des gens qui détestent ça. Ça les saoule parce que pour eux, les étiquettes, c'est un peu enfermant. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi plein de filles qui l'utilisent un peu pour comme un jeu, en fait,
pour détourner justement les codes.
Ouais, puis aussi, enfin, ça permet aussi d'avoir une culture commune, en fait, entre filles et de souvent, butch, par exemple, c'est un terme que les hétéros maîtrisent pas trop, ou femme, par exemple, et c'est un truc qui fait vraiment partie de la culture lesbienne et après sur lequel on peut un peu s'amuser en créant des néologismes, etc.
D'après toi, l'une des figures les moins souvent représentées, on en parlait tout à l'heure, c'est la lesbienne d'apparence masculine, entre guillemets, donc musclée, plutôt forte, avec les cheveux courts, alors que dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que D'après toi, l'une des figures les moins souvent représentées, on en parlait tout à l'heure, c'est la lesbienne d'apparence masculine, entre guillemets, donc musclée, forte, avec les cheveux courts. Alors que dans l'imaginaire collectif, la lesbienne, justement, elle ressemble à ça. Donc pourquoi c'est celle qu'on voit le moins ?
Je pense que quand on met en scène au cinéma, à la télé, quand on dit « Ah tiens, on va mettre une lesbienne », on le fait pour le regard masculin. Et que donc on va mettre une fille considérée très sexy selon les normes actuelles. Donc plutôt que des cheveux longs, très très féminine, très mince, etc., etc. Alors que c'est vrai que souvent... c'est vrai que la figure lesbienne, on pense beaucoup à la butch. Je pense que pourquoi on pense beaucoup à ça, parce qu'en fait, c'est celle qui se remarque le plus, parce que c'est celle qui correspond le moins à ce que doit être une femme, selon les clichés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un impératif très fort sur les femmes, quelle que soit leur sexualité. Hein. Et du coup, la butch, c'est vraiment la femme qui s'en fout de ça, en fait, qui porte pas des cheveux longs, qui se maquille pas, qui s'embête pas à mettre des talons hauts qui font mal aux pieds et qui s'habille pas pour le regard masculin. Et ça, c'est tellement, on vit dans une société où c'est tellement rare et ça paraît tellement fou pour certains que du coup, il y a vraiment un truc où effectivement, ces femmes-là, on les voit en fait. Mmh. Et c'est vrai que la lesbophobie, c'est très souvent aussi dirigé vers des femmes butch, même pas tellement pour leur orientation sexuelle, mais aussi vraiment pour le fait, leur genre en fait, la manière dont elles se présentent au monde.
Et ça, c'est puis il y a cette idée, c'est comme si on pouvait pas être butch. Et hétéro.
Oui, plus, effectivement, on peut complètement être butch et... Enfin, alors, je sais pas si on peut être butch, en tout cas, on peut être très masculine et être hétéro, avoir les cheveux courts et être hétéro. Donc, c'est vrai que c'est un peu un truc très cliché, où c'est vrai que plein de fois, j'entends des gens dire « Ah non, mais elle est trop gouine », alors qu'en fait, elle était juste hétéro, et elle avait juste les cheveux courts, en fait. Donc, il y a vraiment un truc complètement... Mais c'est vrai, c'est ce qu'on impose aux femmes, en fait, d'être forcément dans ce type-là de féminité, alors qu'être butch, c'est aussi dire « Ben, en fait, moi, je suis une femme et en fait, j'ai juste envie de m'habiller comme ça en fait. Souvent que les gens disent ah mais pourquoi elles essaient de ressembler à des hommes, de se faire passer pour des hommes, mais en fait non, c'est juste, faut arrêter, les hommes ne sont pas le centre de l'univers, c'est tout simplement elles ont envie de s'habiller comme ça en fait.
Et à contrario, il y a la lesbienne femme, donc toi tu es plutôt considérée comme une femme qui répond à des codes qu'on attend d'une femme comme tu le disais et qui peut donc se faire facilement passer pour hétéro. C'est plus facile au quotidien certes, mais moins évident dans le milieu lesbien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Je dirais qu'au quotidien, c'est vrai que moi je suis plutôt, je suis femme, je m'identifierais comme femme. J'ai plus la possibilité de le dire quand ça m'arrange. C'est-à-dire que par exemple, si je veux louer un appartement ou trouver un travail, je peux ne pas le dire. Bon, maintenant je suis un peu cramée, maintenant si on tape mon nom sur Google, là c'est mort. Mais à la base, c'est vrai que j'ai plus cette possibilité-là. Alors que si vous avez les cheveux courts, vous avez un look qui est identifié comme très lesbien, on peut beaucoup plus vous discriminer ou dans la rue vous agresser. Après, ce que je dirais, ce qui se passe, c'est que dans la communauté... Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de butchophobie dans la communauté lesbienne et LGBT. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour la figure de la folle chez les gays. C'est-à-dire que comme c'est effectivement sur les lesbiennes, un des clichés, c'est la fille très masculine. Du coup, il y a plein de filles lesbiennes ou bi qui, dans la communauté, vont avoir des discours extrêmement butchophobes, qui vont dire... plein de fois, on m'a dit « Ah, toi, au moins, tu ressembles à une fille, etc. » Et... Arrêtez de dire ça. Parce qu'il y a vraiment un truc où, du coup, comme c'est un stigmate, les gens veulent le mettre à distance, en fait. Ils veulent vraiment s'en distance. Y compris, j'ai déjà vu des filles extrêmement masculines dans leur look, qui surtout ne se définissaient pas comme butch, parce que c'était un stigmate, c'était une figure repoussoire, et donc elles ne voulaient pas du tout s'identifier comme ça. Après, je dirais, pour les femmes, ce qui peut se passer, c'est que du coup, au sein de la communauté, on va peut-être moins vous croire. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un article dans Diva Magazine, il y a quelques années, donc le magazine lesbien anglais, sur le fait qu'il y avait des cas de filles lesbiennes très féminines qui s'étaient fait refouler des bars lesbiens ou des bars homo en général.
Parce qu'on les croyait pas.
Ouais, parce qu'on disait, en fait, t'as un look trop hétéro, t'es hétéro, donc tu rentres pas. Donc il y a plus ça, mais voilà, après... Moi, on m'embête moins maintenant.
Du coup, lors d'un coming out lesbien, il y a souvent toute une évolution vers the look, entre guillemets. Ça peut passer par les cheveux, les piercings. Toi, qu'est-ce que ça a été ? Enfin, qu'est-ce que tu as utilisé comme apparat pour faire ce cheminement ?
Ouais, c'est vrai que... Après, c'est pas obligatoire, tout le monde le fait pas, mais c'est vrai que souvent, au moment du coming out, on peut changer un peu le look. Par exemple, se couper les cheveux. Par exemple, dans The L Word, il y a Jenny, au début de la saison 2, donc, qui s'assume lesbienne, qui se coupe les cheveux, puis en fait, finalement, elle va se refaire repousser ses cheveux très très longs. Donc, il y a vraiment des gens pour qui c'est plus transitoire. C'est vraiment au moment du coming out, on a envie, en fait, de... Bah, on dit qu'on est lesbienne, on dit qu'on est homo, et en fait...
C'est
on...
marquer une rupture.
Ouais, et c'est aussi le dire physiquement avec son look, en fait. Il y a des personnes pour qui c'est juste être enfin conforme à ce qu'on a envie d'être, notamment dans le cas d'une Nana Butch qui va enfin se permettre d'avoir les cheveux court, de s'habiller comme elle veut. Moi, je ne me suis pas coupé les cheveux, j'ai toujours gardé mes cheveux longs, mais c'est vrai que c'est le moment de mon coming out, c'est vraiment le moment où je me fais un piercing au labret, où je change un peu mon look. Clairement, j'ai quasi plus porté de talons hauts, mais ouais, je pense que j'en portais deux
fois.
Parce
qu'avant, t'en portais beaucoup ?
Avant, j'en portais tous les jours.
Waouh !
Avant, j'en portais très très souvent. Tout mon lycée, j'ai vraiment été extrêmement féminine. Et après, c'est un truc que j'ai... Ouais, non, je suis vraiment revenue parce que ça fait trop mal aux pieds. Et donc maintenant, plus jamais. Et je pense que, ouais, j'ai aussi pas mal acheté de petits vêtements un peu plus... qui, selon moi, faisait un peu plus lesbienne, parce que j'avais envie d'être plus lesbienne. J'ai envie qu'on... Après, c'est aussi un truc de drague, hein, c'est con, mais en fait, si vous avez un look dit lesbien, sachant qu'évidemment, une lesbienne peut avoir tous les looks possibles, c'est pas un look qui définit votre orientation sexuelle. Évidemment, une lesbienne peut avoir n'importe quel look possible, et de même pour une hétéro. Mais en tout cas, moi, je m'étais acheté des habits un peu plus masculins, avec cette envie que je sois aussi visible pour les autres femmes homo ou bi. Juste pour ce que j'ai juste envie qu'on me drague, quoi.
J'avais lu d'ailleurs un super article dans le New Yorker qui était sur la manière dont les codes lesbiens étaient rentrés en fait dans la culture mainstream.
Ouais.
Et du coup, je sais pas, les Birkenstock, en fait, c'est considéré comme lesbien. Ou je sais plus, il y avait quoi d'autre, mais c'était assez intéressant et j'avais découvert trop de trucs. Et effectivement, il y a trop de trucs qu'on porte, enfin, quand on est hétéro, qui sont associés à des codes lesbiens. Et c'était assez intéressant de voir comment. Ça avait traversé en fait pour rentrer dans la culture mainstream.
Je crois que l'autrice de l'article, elle disait qu'en gros, elle n'arrivait plus à s'y retrouver parce qu'elle savait pas si la fille était lesbienne ou hipster. Et du coup, elle était toute perturbée. Elle pouvait pas savoir si elle devait la draguer ou pas, si elle est bien reçue ou pas. Ouais.
Bon, on va parler un peu de cinéma. En France, on a eu, particulièrement en France, on a eu des films comme Gazon maudit en 1995 ou plus récemment La vie d'Adèle en 2013. Pour toi, qu'est-ce qui a changé entre ces deux films ? Est-ce que tu as constaté une évolution ?
Alors, clairement, il y a eu une évolution. Qui est déjà qu'en 95, Gazon maudit, il n'y avait que ça, en fait. Enfin, il n'y avait rien. Enfin, c'était un peu le grand film populaire de l'époque où il y a un personnage lesbien. Mais sinon, c'était la galère, quoi. Enfin,
qui était joué par Josiane Balasko.
Exactement. Et d'ailleurs, elle, à l'époque, elle le dit que si elle a voulu le faire, c'est parce qu'il y avait quelques films sur les hommes gays, mais qu'il y avait vraiment que dalle sur les filles homo. Donc c'est vraiment le but quand elle l'a fait. Et non, sinon il y avait que dalle. Enfin, moi je me rappelle, donc c'est un peu après, c'est un peu, je suis vieille mais pas à ce point-là, mais au moment de mon coming out, il y avait que dalle, quoi. Enfin, si tu cherchais des histoires ou des représentations qui te ressemblent, tu crevais la dalle. Donc aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus, même si c'est pas du tout parfait, mais il y en a quand même beaucoup plus. La vie d'Adèle, ce qui était fort, c'est que c'était le film de Cannes, tout le monde a parlé que de ça. Il a eu ce prix super prestigieux. Donc après, c'est un film qu'on peut critiquer pour plein de raisons. Et je vais pas m'étendre parce que ça durerait des heures et des heures, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de films. Ces dernières années, qui mettent en scène des filles homo ou bi, aussi dans les séries. Et j'ai même l'impression que ça bouge particulièrement dans les séries, et notamment grâce aux plateformes en streaming qui se permettent beaucoup plus de mettre en scène des personnes lesbiennes ou racisées, enfin voilà, des gens issus des minorités et aussi juste des femmes, en fait. Donc, c'est vrai que le cinéma, souvent, il y a l'idée qu'il y a un gros enjeu commercial, il faut que ça plaise à tout le monde. Et donc, quand il faut que ça plaise à tout le monde, vous pensez beaucoup aux hétéros. Et donc, vous avez l'impression qu'un film lesbien ou gay, ça va forcément être un four et que ça va pas marcher. Alors qu'en fait, il y a quand même des possibilités de faire quelque chose de super qui va intéresser tout le monde, en fait.
T'écrivais aussi dans un article paru dans Slate il y a quelques années, je le partagerai sur la page de Binge, que certaines actrices aussi hésitaient, enfin des actrices hétéros, hésitaient à prendre des rôles de lesbiennes parce qu'elles avaient peur après de s'enfermer dans des cases. Et d'ailleurs, à ce propos, le comédien Océan disait pour son spectacle La lesbienne invisible qu'il était obligé de réaliser, d'écrire tout lui-même parce que, je cite, pour les femmes, il y a particulièrement l'angoisse de ne plus pouvoir être un objet de désir. Si j'attends qu'on m'appelle pour jouer, ça ne va juste jamais arriver. Donc la lesbienne, elle fait peur.
Elle fait grave peur. Non, mais il faut voir, en fait, ben, les femmes au cinéma, en fait, souvent, leur rôle, c'est quoi? C'est la petite copine, en fait. C'est la petite copine du héros, donc évidemment hétéro, ou alors c'est l'héroïne, mais qui va chercher son prince charmant, etc., dans les comédies romantiques. Donc, c'est sûr que dans ce cadre-là, en fait, il n'y a, ben, y a pas trop de place pour les LGBT en général, et il n'y a pas trop de place pour les filles homo ou bi, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème, et évidemment, d'où ça vient, c'est aussi, ça vient du fait que globalement, c'est quand même, il y a pas assez de femmes dans le monde du cinéma. En tout cas, moi, j'avais des chiffres que j'étais dans mon papier. C'est par exemple, il y avait une enquête du CNC, donc ça date de 2012. Mais les chiffres qu'ils avaient, c'est que les femmes, le pourcentage des femmes parmi les réalisateurs de longs métrages était 23%. Alors forcément, les scénaristes et réalisateurs, eux, ils vont parler de ce qu'ils connaissent le mieux. Donc souvent leur propre vie, donc plutôt d'hommes hétéros. En plus, comme les lesbiennes sont globalement invisibilisées dans la société, c'est-à-dire qu'on en parle moins dans les médias, on en parle moins dans les livres, donc c'est aussi moins de livres que vous pouvez adapter, par exemple, au cinéma. La vie d'Adèle, c'est une adaptation d'une BD écrite par une lesbienne, et heureusement qu'il y ait cette BD-là, en fait, parce que sinon, il n'y aurait pas eu le film qui pouvait en découler. Donc c'est vrai que l'invisibilité globale fait que on la retrouve dans le cinéma, avec ce biais-là. Et alors j'ai un petit coup de gueule, il y a un film qui va sortir bientôt, qui est le nouveau film de Keira Knightley sur la vie de Colette, ça s'appelle Colette, ça sort en janvier, et je suis tellement énervée parce que c'est trop bizarre de voir le film.
C'est elle qui réalise ?
Non, c'est elle qui joue.
C'est elle qui joue, okay.
Et moi je vous le conseille, moi j'ai vraiment bien aimé, et je me dis c'est quand même dingue qu'on doit attendre que les Américains fassent un biopic sur la vie de Colette alors qu'il y a cette femme, donc, qui n'est pas lesbienne, qui est sortie avec des hommes, mais elle a aussi eu des histoires avec des femmes, et on le voit très bien dans le film. C'est dingue que le cinéma français ait pas... On a tellement des nanas qui ont fait des trucs mais tellement stylés en France, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des biopics sur elle, en fait?
Voilà, un appel aux scénaristes, réalisateurs, tout ça. Mais tu disais justement, tu parlais des séries sur le fait qu'il y avait plus de personnages lesbiens. On en a parlé très rapidement avec Maxime Donzel lors de l'épisode 5, où on se disait que les lesbiennes, c'était celles qui mouraient très très rapidement. Alors il y a les noires, certes, mais les lesbiennes...
Et puis les lesbiennes noires, voilà. Et là tu sais que c'est mort, elles vont mourir dès l'épisode 2. C'est souvent... Parce que c'est souvent... très centré sur des histoires hétéros et sur des hommes, et donc du coup on met une lesbienne un peu histoire d'eux, et puis en fait au bout d'un moment on sait plus quoi en faire, en fait,
une fois qu'elle s'intéresse pas à sa vie,
et du coup on la tue, quoi. Et c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de fans LGBT qui en avaient vraiment marre que les persos lesbiens soient tués dans les séries, et qui sont mobilisés à plusieurs reprises via certaines séries en particulier pour dire arrêtez de tuer les lesbiennes, quoi. Non, donnez-leur une chance d'être heureuses plus tard.
On espère que le message a été entendu pour les prochaines séries. Tu avais sorti une édition spéciale de Well Well Well, un hors-série avec des icônes lesbiennes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et pourquoi elles sont importantes ?
On vient de le sortir, en octobre dernier. C'est vrai que pour nous, c'était un important pour toute la rédaction de vraiment dire, on parle toujours des icônes gays, en fait. Alors, on connaît Dalida, etc., etc. Et finalement, les icônes lesbiennes, on ne sait pas, c'est beaucoup moins connu. Moi, si je dois en choisir trois, je dirais Audrey Lorde, qui est une poétesse et militante féministe noire, tellement importante et tellement pas assez connue. Moi, je l'ai découvert relativement tard et je comprends pas pourquoi, en fait, on en a pas parlé avant. Et c'est pour ça que dès le numéro de Well Well, numéro 1, on avait fait un papier sur elle, parce que c'est vraiment, elle est pas du tout assez connue et c'est un scandale. Il y a aussi Monique Wittig, qui est hyper importante, qui est... lesbienne féministe qui faisait partie des quelques femmes qui ont été déposées une gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 1970, qui est vraiment considéré comme un peu l'acte fondateur du MLF en France. Donc c'est vraiment une personne hyper importante qui a notamment écrit La pensée straight, et vraiment il faut la lire. Elle a vraiment un apport théorique extrêmement fort. Et dernière personne, j'ai envie de dire Amélie Mauresmo, qui était une des toutes premières sportives en France à faire son coming out, c'était en 99, et elle s'est vraiment pris un saut de merde, mais incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin, les guignols de l'info à l'époque, qu'on aime bien, ils nous font rire, etc. Mais il avait vraiment, il l'avait représenté, en gros, elle avait un corps, mais plus musclé que Schwarzenegger, elle avait une voix hyper rauque, hyper... et c'était vraiment se foutre de la gueule, enfin c'est vraiment la lesbophobie de base, donc elle est lesbienne, elle est pas exactement dans la féminité la plus classique, donc du coup, comme c'est pas Marilyn Monroe, on va se foutre de sa gueule et dire qu'elle est très masculine, au point que de la faire complètement ressembler à un homme, et ça c'était... Ouais, c'était vraiment naze.
Est-ce que tu peux me dire trois choses, ou plus, ça dépend de toi, qui t'ont aidé à te construire en tant que lesbienne et qui t'ont aidé à t'accepter et qui pourront éventuellement aider des femmes qui nous écoutent?
Alors, en côté film, donc au moment de mon coming out, d'avoir la vingtaine, donc il n'y a pas grand-chose comme film à l'époque, mais il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Bound, des Sœurs Wachowski. C'est leur tout premier film, donc qui ont ensuite fait Matrix, Sense8, et plein de films extrêmement bien. Et ça, j'avais vraiment trop aimé. C'est, les deux nanas sont super sexy. Il y a une qui est très butch, une qui est très femme. Et le film est vraiment pas mal. Donc ça, je le conseille.
Ça parle de quoi ?
C'est un polar. Je ne veux pas trop raconter toute l'histoire, mais c'est un polar et c'est vraiment chouette. Après, ça a peut-être un peu vieilli. Je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais 20 ans aujourd'hui, peut-être plus se tourner vers Carole ou vers La Belle Saison. La Belle Saison, c'est un film français qui est vraiment super. C'est une sorte d'amour sur fond de MLF et vraiment, on n'en a pas assez parlé. Il est vraiment très chouette et je pense qu'il n'a pas été assez vu. Donc il y a ça côté film. Après, en livre, je sais que moi j'avais découvert tout le travail d'Alison Bechdel, donc qui est BDast et notamment qui a fait Dykes to Watch Out For, donc traduit en français Les Gouines à suivre. Donc moi, à l'époque où j'ai découvert, j'ai dû l'acheter en occasion en anglais, le faire importer, etc. pour le lire. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont fait une compile qui a été traduite en français, donc en plus c'est beaucoup plus accessible et c'est vraiment juste génial. C'est l'histoire d'un groupe d'amis lesbiennes queer, donc aux États-Unis. Alors c'est un truc qu'elle faisait à l'époque, c'est une chronique qu'elle faisait hebdomadaire, toutes les semaines. Donc en fait, il y a plein de références à l'actu du moment. Donc par exemple, le procès O.J. Simpson, à Bill Clinton, etc. Donc il faut un peu se remettre dans l'ambiance de l'époque, mais c'est vraiment super. Elle a fait aussi Fun Home, c'est un peu plus connu, qui a été traduit en français là tout de suite, ce qui est vraiment autobiographique et qui est extrêmement émouvant. Et qui avait été adapté en comédie musicale, que j'ai eu la chance de voir ça à New York. Malheureusement, ça ne passe plus. Mais c'était, honnêtement, j'étais en pleurs, c'était trop bien.
Parce qu'il faut savoir que tu es fan de comédie musicale.
tu me connais, donc tout de suite, tu balances les dossiers. Mais effectivement, je suis fan des comédies musicales. Mais là, tu vois, il y avait un vrai truc. Parce que souvent, je vois des comédies musicales et je sors, je dis que c'était quand même vachement sexiste. Hein. Oh, ça m'énerve, c'était super cliché. Et là, c'était hyper fort de voir cette pièce qui raconte l'histoire d'une femme lesbienne, butch. C'était juste du jamais vu. Et c'était vraiment émouvant, en fait, de voir ça sur scène. En fait, quand tu le vois, tu te rends compte à quel point ça n'existe pas et en fait à quel point ça t'a manqué. Tu savais même pas que ça t'a manqué, mais en fait ça t'a complètement manqué en fait. Et un dernier truc, il y a un bouquin que j'avais lu, que j'avais trouvé pareil quand il y a un bon paquet d'années dans une librairie à Londres, parce que ça n'a jamais été traduit. C'est un bouquin de Jack Aberstam qui s'appelle The Female Masculinity. Et qui est vraiment une réflexion hyper intéressante sur donc la masculinité mais chez les femmes. Et d'ailleurs, ça, malheureusement, ça n'a jamais été traduit, mais par contre, ça va être réédité. Parce que là, c'est les 20 ans, donc là, il est réédité en janvier. Et donc, si jamais vous parlez très bien anglais et que c'est un sujet qui vous intéresse, je le conseille.
Et enfin, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur la PMA, ce sujet qui concerne principalement les femmes et notamment les femmes lesbiennes à qui on ne donne jamais la parole. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes si invisibilisées dans ce débat alors que vous êtes les principales concernées.
Parce que les journalistes font mal leur travail. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. En tant que journaliste, moi, je suis vraiment peinée de voir à quel point le boulot est mal fait actuellement. Et c'était déjà le cas pendant tous les débats sur le mariage. Il y a vraiment un truc, je pense, chez pas mal de journalistes qui vont couvrir donc cette histoire de tout le débat sur est-ce qu'on doit ouvrir la PMA aussi aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont interviewer un anti. Donc, c'est souvent un Manif pour tous ou consort sur, qui va dire « Ah non, c'est pas bien, etc. » Et du coup, ils vont chercher un pour. Et pour les pour, ben, souvent, ils vont inviter des hommes politiques qui défendent ça. Ou alors, si on a un peu de chance, ils vont dire « Ah tiens, on va prendre un porte-parole d'assaut LGBT. » Il se trouve que c'est souvent des hommes gays. Ben, parce que juste, en fait, dans la communauté LGBT, comme chez les hétéros, ben, c'est souvent les hommes qui ont plus le pouvoir que les femmes. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça qu'on arrive à des débats, des reportages, où en fait, finalement, on voit pas une seule lesbienne, alors qu'effectivement, on parle de nous directement, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce boulot qui est mal fait, et c'est vraiment dommage, parce que ça a vraiment des conséquences, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de refuser à quelqu'un, un groupe de personnes, un droit, quand, en fait, on les voit pas. Et en fait, moi, je trouve qu'on comprend très mal... Enfin, tous les trucs de haine et de peur, c'est aussi vraiment... Alors, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que les gens ne connaissent pas, en fait. C'est-à-dire que c'est l'inconnu, donc ça fait peur.
C'est l'ignorance pure et
dure. Qu'on fantasme complètement ce que ça peut être, un couple d'hommes qui va élever un enfant, un couple de femmes qui va élever un enfant. Et donc, du coup, on quand même dans la peur, parce qu'on est dans l'ignorance. Donc, alors, si on donnait à voir les gens, on verrait que, putain, mais c'est... Désolée, j'en dis des gros mots. Mais si on donnait vraiment à voir ces couples-là, ces couples de femmes qui ont des enfants, on verrait à quel point c'est très commun, en fait, et très banal.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour...
Faudrait que les journalistes fassent mieux leur boulot et qu'ils aillent vraiment...
au cœur du sujet.
Ouais, c'est-à-dire de quoi on parle, de est-ce qu'un couple de femmes doit élever un enfant, allons voir ces couples de femmes, allons voir les enfants qui ont été élevés par des couples de femmes pour qu'ils disent comment ça s'est passé. Et voilà, donc, mais ça, c'est vrai que c'est un truc auquel ils ne pensent pas assez à faire. Ils n'y pensent pas.
Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
C'était l'épisode 8 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Si vous avez des choses à me dire, des critiques, des commentaires, des mots, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux @JenniferPadJenny. Et pour retrouver tous les épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci et à dans 2 semaines.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.